Xuno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Xuno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous parlons de ces accidents provoqués par des ennemis silencieux et souvent invisibles. Scorpions, serpents, piqûres, morsures, ces crocs de vipères, cobras, mambas provoqueraient au moins 25 000 décès en Afrique, 125 000 à l'échelle planétaire. Fauchant ou mutilant, des paysans au champ, des femmes ramassant du bois, des enfants assoupis sur une natte posée à même le sol, des morsures de serpents venimeux qui provoquent des urgences médicales et pourtant, leur prise en charge est insuffisante à tous les niveaux. Absence de données fiables, personnel de santé souvent non formé, pénurie de traitement, ces précieux sérums trop rares dans les structures de soins, surtout en milieu rural. Autant de lacunes qui ont poussé l'an dernier l'Organisation mondiale de la santé à inscrire officiellement ce risque dans la liste des maladies tropicales négligées prioritaires. Mais un an après, ce geste n'a pas fondamentalement changé la donne. Et par exemple, la production de sérum antivenin reste bien inférieure aux besoins. Le mois dernier, c'est l'ancien secrétaire général des Nations Unies qui a pris à son tour la plume pour dénoncer cette indifférence. Kofi Annan, dans une tribune publiée par le journal Le Monde, déclare que la morsure de serpent constitue une grande crise de santé publique ignorée. Une crise qui, pour être surmontée, doit enfin permettre aux populations concernées d'accéder au traitement, de bénéficier de meilleures politiques d'information, de prévention. Un vrai défi de la lutte contre l'envenimation, combat que vous menez depuis longtemps. Professeur Jean-Philippe Chipot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, ainsi qu'à l'Institut Pasteur. Et tout à l'heure, nous serons en ligne avec le Gabon. On va retrouver le professeur Romain Tchoua, chef du département anesthésie, réanimation, urgence de l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba de Libreville. L'envenimation, est-ce que ce problème vous concerne? Si vous avez un témoignage à apporter, n'hésitez pas à nous appeler. Votre témoignage, bien sûr, nous intéresse. Et notre numéro, c'est le 33 84 22 75 75. Et en fin d'émission, on va parler de l'épidémie de dengue à La Réunion. Niveau 4 du plan ORSEC pour lutter contre la maladie a été déclenché dans le département français de l'océan Indien la semaine dernière. Nous serons en ligne tout à l'heure avec le docteur François Chiez qui dirige la cellule de veille et de sécurité sanitaire à l'Agence régionale de santé.
Priorité santé sur RFI.
Alors au cours de cette émission, on va bien sûr aborder les grandes problématiques en relation avec ces piqûres, ces morsures, traitements, accès aux soins. Deux problématiques en fait qui sont complètement liées. C'est compliqué, professeur Jean-Philippe Chipot, de dire quelle conduite tenir quand au bout du compte, eh bien, on ne dispose pas de sérum pour sauver une personne en danger.
Tout à fait. En réalité, il y a deux niveaux. Vous avez d'abord le niveau où se produit la morsure, ou la piqûre de scorpion, ou la morsure de serpent. Particulièrement les morsures de serpent, puisque celles-ci ont lieu en milieu rural, dans les champs, et donc là, il y a absolument aucun dispositif permettant de les prendre en charge. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est le centre de soins, ou le centre de santé, l'hôpital, où là, malheureusement, dans la plupart des structures sanitaires, notamment d'Afrique subsaharienne, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose, sinon rien, et en tout cas, il n'y a pas d'antivenin disponible, alors qu'il en existe. Le problème, c'est de les amener à l'endroit où on en a besoin.
Est-ce que le problème aussi, c'est de les conserver dans cet endroit ou c'est finalement une question secondaire?
Non, parce que maintenant, nous avons des antivenins qui sont lyophilisés et qui se conservent à température ambiante. Donc, c'est pas un problème de stockage, c'est un problème de gestion des stocks, ça c'est sûr, puisqu'il faut anticiper les besoins. Et quand on parle d'anticiper des besoins, ça veut dire qu'il faut les connaître, et c'est ce qui nous manque actuellement. Et d'autre part, il y a un problème de distribution qui est lié probablement à des problèmes logistiques, mais surtout au fait que l'antivenin est un produit extrêmement cher. Et il est extrêmement cher parce qu'il est très complexe.
Alors précisément, connaître les besoins. On va commencer avec ces chiffres, professeur Jean-Philippe Chipeau. Est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens vraiment d'évaluer l'ampleur du risque, aussi bien le degré de dangerosité en termes de survie face à ce problème de santé publique, hein, on l'a souligné. Est-ce que l'on sait d'abord où sont les serpents, s'ils sont nombreux et justement s'ils présentent des risques véritables pour la santé humaine?
Alors c'est effectivement, la morsure de serpent, comme la piqûre de scorpion d'ailleurs, résulte de la conjonction de deux phénomènes, qui est d'une part la présence du serpent et d'autre part la présence de l'homme. Les deux s'expliquant de manière différente, bien sûr. Le serpent est là pourquoi ? Il est là pour manger, pour se reproduire, pour se reposer éventuellement. Et l'homme est là pour des raisons économiques, puisqu'en général, c'est là où il cultive, mais aussi quelquefois à domicile, mais c'est plus généralement là où il a ses cultures qu'il se fait mordre. Pour le scorpion, c'est plus complexe, plus répandu, puisque le scorpion peut se trouver dans des villes, hein, y compris des grandes villes, et en tout cas dans les faubourgs de ces grandes villes. Il rentre dans les maisons, et donc la piqûre n'a plus forcément lieu sur le lieu de travail, mais aussi a lieu à domicile, et donc touche une population différente qui est composée de l'ensemble de la famille, hein, y compris des enfants. Ce qui est un petit peu moins le cas pour les serpents. Donc, évidemment, il faudrait faire des recherches sur les raisons pour lesquelles le serpent ou le scorpion se trouve à cet endroit. Et ça nous manque beaucoup, des travaux de zoologie, d'écologie. Pour ce qui est de l'économie concernant l'homme, c'est un petit peu plus facile parce qu'on sait où il cultive et on sait ce qu'il cultive. Donc on peut anticiper les choses à ce niveau-là.
Et pour ce qui est de la portée des risques, risques létals, donc de mort suite à la piqûre, et puis aussi les risques de blessures et des conséquences physiques, on parle même de conséquences mentales. À quel niveau, justement, professeur Jean-Philippe Chipeau, c'est quoi ? C'est des atteintes neurologiques ?
Alors, il n'y a pas de séquelles neurologiques physiques. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pu montrer qu'il y ait des lésions durables à la suite d'une morsure de serpent, à la suite d'une morsure de cobra et de mamba qui ont une neurotoxicité.
Ça veut dire que c'est juste quand on vient de se faire piquer ?
Alors, quand on vient de se faire piquer, il y a une action du venin qui provoque une paralysie respiratoire, mais qui est transitoire. Malheureusement, elle dure suffisamment longtemps pour provoquer la mort. Mais si on parvient à faire une respiration artificielle, ce qui est possible dans un centre de... Non, pas un centre de santé, dans un hôpital, je pense d'ailleurs que Romain Choua nous expliquera ça tout à l'heure, éventuellement, mais donc là il y a une possibilité de passer le cap dangereux, et ensuite il n'y a pas du tout de séquelles, il n'y a pas de lésions, du moins pour les serpents africains. C'est moins vrai pour les serpents asiatiques et océaniques et éventuellement américains. Mais en Afrique, il n'y a pas de séquelles. En revanche, il y a des séquelles psychologiques. C'est clair que quand on a été mordu par un serpent, on s'en souvient toute sa vie.
Avec même des phobies, des peurs avec vraiment de retourner travailler au champ, des impossibilités.
Absolument, absolument.
Et justement, cette envenimation, ce champ spécial, c'est un champ médical spécifique. Comment on y vient ? Comment on devient justement ce spécialiste à la fois des animaux et de la santé humaine ? C'est vraiment quelque chose de très particulier.
C'est tellement particulier qu'il n'y en a quasiment pas dans le monde. Des personnes qui s'intéressent spécifiquement aux envenimations, ce qu'on appelle maintenant la venimologie, c'est une discipline qui est très très rare, qui est très peu représentée, même dans des pays où cet accident est fréquent. En réalité, c'est plus les réanimateurs qui s'intéressent, réanimateurs ou urgentistes, qui s'intéressent à cette question. Et maintenant, il commence à y avoir un engouement des spécialistes, des médecins pour cela, parce que d'une part, c'est fréquent, et d'autre part, on découvre la diversité et la complexité du problème. Et donc, ça devient véritablement passionnant pour ceux qui s'y intéressent.
Alors, beaucoup de questions qui se posent, hein. Localiser les animaux, reconnaître les espèces, identifier les symptômes. Tout de suite, justement, un témoignage.
Priorité santé sur RFI.
Et ce témoin s'appelle Thierry Morisot. Raphaël Constant l'a rencontré. Il est agent général d'assurance et jogger à 16 heures. Et il nous raconte les circonstances dans lesquelles il s'est fait mordre par un serpent. C'était dans un parc en région parisienne.
Alors c'était un soir en faisant un footing. Pour vous dire, c'était au château Vaux-le-Vicomte parce que je suis un amoureux de ce château en banlieue parisienne. Et donc j'ai couru Et j'ai senti effectivement un pic sur mon mollet gauche, comme si, je sais pas moi, une petite souris qui vous mordit, ou c'est vraiment une petite morsure. Vous sentez une morsure. J'ai regardé derrière, j'ai senti ça dans le mollet, je me suis retourné, j'ai rien vu, mais c'est vrai, j'ai senti une morsure. Et j'ai continué mon footing. Je suis rentré chez moi le soir, et le lendemain matin, j'ai eu une énorme fatigue. Mais vraiment une très très grosse fatigue. Je devais aller travailler, je suis parti à 9h du matin à mon bureau. Et pour vous dire, je suis même rentré 5 minutes après parce que je n'étais pas debout. J'étais vraiment KO. Et le lendemain, le dimanche midi, je sors et à ce moment-là, ma femme me dit « Mais est-ce que tu as vu ton mollet ?» Et j'avais un mollet qui avait triplé, qui était rouge, qui était énorme. J'étais moins fatigué, mais j'avais un mollet qui était vraiment très rouge et qui avait carrément triplé de volume. Donc en fin de journée, je vais à la clinique. Et à la clinique, je dis voilà ce qui se passe, docteur, je ne sais pas ce qu'il en est. Et je suis tombé sur un super interne qui a regardé mon mollet et qui a tout de suite vu qu'il y avait deux morsures en bas de mon mollet. Et tout de suite, il m'a dit ça, c'est un serpent.
Les deux crocs du serpent, en fait, c'est ça ?
Ah, tout à fait. On voyait vraiment les deux crocs du serpent qui étaient espacés de quelques millimètres. Et il m'a dit là, il faut que je vous pique et que je vous mette un sérum. Il m'a mis le sérum. Je peux vous dire que dans les 3 heures qu'on suivit, mon mollet s'est effectivement rétracté. Les rougeurs sont parties et le lendemain, c'était terminé.
Et est-ce que vous avez gardé des séquelles de cette morsure ?
Oui, je crois que je dois avoir 2 petits points effectivement en bas de mon mollet. À partir de ce moment-là, quand il m'a dit que c'était un serpent, je voulais quand même en savoir un peu plus. Donc, pour vous dire que lui avait déjà identifié que c'était une vipère. Il m'a dit... Vous savez que ce qui s'est bien passé pour vous, c'est que vous n'avez pas vu le serpent vous mordre. Comme ça, vous êtes resté cool et vous êtes après, vous avez été vous faire soigner, mais vous n'avez pas eu de complications cardiaques.
Et est-ce que depuis, vous avez repris le jogging dans ce fameux parc ?
Et bien sûr que je continue à courir, oui, tout à fait. Oui.
Témoignage recueilli par Raphaël Constant, professeur Chipot. Impressionnant, hein ? L'effet quasi immédiat de ce sérum, c'est quelque chose qu'on constate souvent ?
Tout à fait, un bon antivenin. Alors, on préfère utiliser le terme d'antivenin à cause de la purification extrêmement poussée des sérums. Alors, autrefois, on utilisait des sérums. Depuis qu'on les a purifiés, on parle plutôt d'antivenin. Oui, ça agit s'il est bien adapté, c'est-à-dire s'il correspond bien à l'espèce qui est en cause. Les premiers effets se font sentir dans la demi-heure qui suit l'administration.
C'est forcément beaucoup plus compliqué, professeur Chipot, quand on n'a pas vu, quand on n'a pas identifié le serpent.
Oui, alors certes, l'identification du serpent peut être utile, mais en fait maintenant nous utilisons des antivenins polyvalents, c'est-à-dire qui couvrent la plupart, sinon toutes les espèces du pays où on l'utilise. Alors pour la France, c'est très simple. D'ailleurs, cet interne a été a fait un diagnostic facile, non pas le diagnostic de morsure de serpent, ça c'était compliqué et il a très bien réagi à ce niveau-là. Mais en revanche, dire que c'est une vipère, c'était facile. Il n'y a pas d'autres espèces en France que les deux vipères, il y en a 4 espèces, mais les deux principales. Et les antivenins qui sont vendus en France sont des antivenins qui couvrent, enfin qui étaient vendus en France, puisqu'on en parlera peut-être, Sanofi Pasteur, qui était l'unique pourvoyeur à arrêter la production. Cet antivenin est remarquablement efficace. Une ampoule suffit dans la quasi-totalité des envenimations.
Pour revenir aux serpents présents en Afrique, c'est quoi les grandes espèces, les serpents qu'on a le plus de risques de rencontrer ?
Alors, ça dépend de la zone. Si vous considérez la savane, c'est très probablement et même très certainement Equis ocellatus, qui est une petite vipère qui fait une quarantaine de centimètres de long, mais qui est dont le venin est extrêmement toxique et qui provoque plus de 80% entre 75 et 80% des envenimations, avec des syndromes hémorragiques très importants et un décès qui survient, qui peut survenir entre 2 et 6 jours après la morsure. Ensuite, vous avez d'autres vipères beaucoup plus grosses, hein, les bitis, qui font 1,50 m, 2 m de long et qui sont très épaisses. Donc là, vous en avez en forêt et en savane. Et puis, vous avez Alors ça, ce sont les vipères. Vous avez les, ce qu'on appelle les élapidés, c'est-à-dire les cobras et les mambas, qui appartiennent à la même famille, qui eux ont donc ont un venin neurotoxique, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui se trouvent présents également en forêt et en savane, plus généralement dans les endroits où il y a des arbres.
On a entendu le mot vipère, le mot cobra. Justement, les spécialistes, professeur Jean-Philippe Chipot, parlent de syndrome cobraïque et de syndrome vipérin. C'est quoi la différence ?
Alors, les cobras et les mambas ont un venin composé de neurotoxines qui agissent sur la transmission de l'influx nerveux. C'est-à-dire qu'elles paralysent. Et en particulier, elles paralysent le système respiratoire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus respirer. Et donc, on meurt d'asphyxie. Si on n'est pas traité, si on n'est pas pris en charge. C'est ça le syndrome cobraïque. Le syndrome cobraïque, que les spécialistes appellent aussi un curare, hein, puisqu'il agit comme un curare, qui est donc cet alcaloïde sud-américain, des plantes sud-américaines, qui provoque exactement de la même façon une paralysie musculaire, et en particulier de la respiration. Donc ça, c'est le syndrome cobraïque qu'on trouve avec les mambas et les cobras. Et puis, vous avez le syndrome vipérin qui est beaucoup plus complexe, puisqu'il est à la fois inflammatoire, donc il provoque un édème douloureux. D'autre part, il est hémorragique, c'est-à-dire qu'il provoque des saignements.
Mais pas la blessure, hein, dans d'autres
partout,
lieux du corps.
Partout, y compris la blessure. Alors, c'est deux enzymes différentes, hein, localement et plus généralement au niveau du système de la coagulation sanguine. Mais vous avez les deux. Alors, vous pouvez en avoir qu'un seul, effectivement, ou avoir les deux. Et puis, le troisième volet du syndrome vipérin, c'est la nécrose, c'est-à-dire la destruction des tissus. Il ne faut pas oublier que le venin, à l'origine, est un suc digestif. Ça permet au serpent, certes, de paralyser, de tuer sa proie, mais aussi de la digérer. Et donc, par conséquent, les vipères, qui sont très très riches en enzymes digestifs, provoquent une nécrose, une destruction du membre mordu.
Oui. Avec des blessures, on peut dire, très vilaines,
oui,
hein, c'est épouvantable. Peuvent, hein.
Oui, c'est des blessures qui sont atroces et qui, dans beaucoup de cas, nécessite une amputation.
Alors, professeur Jean-Philippe Chipot, vous restez avec nous. On va rester sur des questions pratiques, tout de suite avec les questions des auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Avec un premier auditeur, c'est Youssouf qui est en ligne du Cameroun, de la ville de Maroua. Bonjour Youssouf.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
On vous écoute Youssouf.
Ok, en fait, pour moi, il s'agit d'une piqûre par un scorpion. Les faits remontent en 2011, où lors des vacances, j'avais décidé de me rendre au village et après une soirée cinéma avec des amis, j'ai posé le pied sur une feuille de palmier et un scorpion s'y trouvait. Donc sur le champ, j'ai ressenti une décharge. La douleur ressemblait au début à une piqûre comme une aiguille et par la suite, elle a carrément envahi mon pied et je n'arrivais plus à le déposer. Donc j'ai été transporté par des amis jusqu'à la maison et bon, sur le champ, on a incisé un peu la plaie afin que le sang s'écoule plus et on y a déposé une certaine pierre noire. Et je suis vraiment surpris de me retrouver en ville le lendemain matin parce que généralement dans les documents télévisés qu'on suit, les venins de scorpions sont potentiellement mortels, mais je me suis rendu compte que non, j'ai pu survivre à cela. Bon, depuis pratiquement 7 ans, je traîne certaines préoccupations en tête et je pense que c'est l'occasion de poser mes questions.
On vous écoute,
bon, premièrement, je voudrais savoir si le professeur a des informations sur cette fameuse pierre noire, puisque je ne sais pas de quoi est-elle constituée. Est-ce que vraiment elle a un effet thérapeutique ou il s'agit juste d'un effet placebo?
Alors, sur cette pierre noire, professeur Jean-Philippe Chipot, c'est quoi précisément?
Alors, la pierre noire, c'est un morceau d'os qui a été cuit, si je puis dire, dans un four, de façon à le rendre extrêmement poreux, de rendre ce morceau d'os devient
absorbant
et en particulier, enfin comme une éponge. Mais il absorbe absolument tout, hein, y compris la sueur, le sang, enfin tout ce qui est liquide et qui rentre en contact avec. Avec lui. Donc cette pierre noire, nous l'avons testée expérimentalement au laboratoire sur des souris, sur différents types d'animaux, et en fait, elle absorbe pas particulièrement le venin. Alors elle peut avoir un effet en absorbant des liquides sur place, donc réduire peut-être un peu l'édème, donc réduire un peu la douleur, ça c'est possible. Elle a surtout un effet tranquillisant. Parce que, comme beaucoup de gens croient dans cette pierre noire et croient à son efficacité, eh bien, ils sont rassurés. C'est déjà un point énorme.
Alors, cet effet à la fois donc absorbant et placebo, puisque vous posiez la question. Est-ce que vous avez une autre question, Youssouf?
Ah oui, la deuxième question est de savoir en fonction de quoi varie la toxicité d'un venin. Pourquoi dans les documentaires télévisés, ils sont censés être mortels et dans mon cas, j'ai survécu.
Alors là, précisément, professeur Chipot, le scorpion qu'on trouve en Afrique subsaharienne, la question de Youssouf, est-ce qu'il est mortel? Est-ce qu'il est dangereux?
Non. Alors, il y a un gradient. C'est-à-dire que les scorpions qui sont en forêt, en Afrique de forestière subsaharienne, c'est-à-dire sud de la Côte d'Ivoire, Gabon, etc., ne sont absolument pas... Enfin, ils font très mal, hein, ils sont douloureux, la piqûre est douloureuse, mais ils ne sont pas dangereux, ils ne sont absolument pas mortels, même pour un jeune enfant. En revanche, en Afrique du Nord, dans le Maghreb, au Moyen-Orient, ce sont des scorpions qui sont extrêmement toxiques et qui ont un venin qui peut éventuellement tuer. Alors, il faut quand même préciser que le groupe le plus à risque, ce sont les très jeunes enfants. Il y a relativement peu d'adultes qui meurent à la suite d'une piqûre de scorpion. Alors ensuite, vous avez un gradient entre les deux, c'est-à-dire que Maroua est quand même une zone assez sèche, c'est une zone de savane, plutôt sèche et qui est plutôt proche du Sahel. Et donc là, vous pouvez trouver des scorpions qui sont presque du même type que ceux que l'on rencontre dans le Maghreb et qui peuvent être très toxiques pour un enfant, voire pour un adulte.
Hein, donc prudence quand même.
Donc prudence. Et puis, dernier point... Il faut que vous sachiez que la variabilité de l'effet toxique du venin est due à deux choses. Premièrement, à la quantité de venin qui est inoculée, que ce soit le serpent ou le scorpion, d'ailleurs c'est la même chose, il n'y a pas forcément inoculation de venin. Et s'il y a inoculation de venin, ça peut être une quantité très faible, donc non mortelle. Ça, c'est même assez fréquent. On estime à plus de 40% les morsures, ce qu'on appelle les morsures sèches, c'est-à-dire les morsures par un serpent venimeux, qui ne sont pas suivies d'envenimation parce que le serpent n'a pas injecté de venin ou très peu de venin. C'est la même chose avec les scorpions. Et vous avez une très très grande majorité de piqûres de scorpions qui ne sont pas suivies d'envenimation. Et la deuxième chose, c'est que le venin est extrêmement variable d'un individu à l'autre. Il faut savoir qu'un venin, que ce soit... Alors, plutôt chez les serpents, c'est probablement plus d'une centaine de constituants dans le venin d'un serpent. Chez les scorpions, c'est peut-être 20 ou 30 constituants différents, c'est un petit peu moins, ils sont un peu moins nombreux. Mais ces constituants peuvent très bien varier, non seulement entre les espèces, comme je le disais tout à l'heure, entre les espèces d'Afrique du Nord, les espèces d'Afrique subsaharienne, mais également d'un individu à l'autre. Et ça, il est donc très compliqué de savoir quel est le risque quand on est piqué par un scorpion ou mordu par un serpent, s'il y a véritablement un risque d'envenimation derrière et quelle est sa gravité.
Voilà pour cette réponse très complète. Très bonne journée à vous, Youssouf, à Maroua au Cameroun. On va partir pour la Côte d'Ivoire, retrouver Aboubacar qui est à Abidjan. Bonjour Aboubacar.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
On vous écoute.
Alors, moi il y a de cela une dizaine d'années, c'est bien avant 2008, j'étais à Nibinekro, c'est à 270 km d'Abidjan, à l'est de la Côte d'Ivoire, et on revenait d'un match de football. On était environ 25 personnes. Et puis, on traversait le terrain de football. J'avais senti une petite morsure. Donc, par réflexe, je me suis accroupi et puis j'ai ramassé ce qui m'avait piqué. Je me suis rendu compte que c'était un serpent. Alors, tout paniqué, j'ai jeté le serpent. Je commençais à crier à petite tête. Et mes amis qui étaient là ont pris un vêtement. Ils m'ont attaché solidement le pied. Et puis, ils m'ont transporté rapidement au centre de santé, qu'on appelle le centre de santé Palazzolo, qui se trouve à Nibilecro. C'est le plus moderne d'un Nibilecro que j'ai été mordu. Alors, depuis cette époque-là, j'ai vaguement le souvenir de ce qui s'était passé concernant le traitement. Je sais que j'avais reçu une piqûre, mais je ne sais plus réellement comment j'avais été traité. Mais je peux vous dire que j'ai la psychose. Il y a une psychose terrible qui est en moi. À chaque fois que je vois même un serpent à la télé, si je rêve à un serpent, je me réveille en catastrophe. Je peux même plus dormir dans le noir, tellement la psychose, elle est énorme chez moi jusqu'à aujourd'hui. Je ne supporte vraiment pas le serpent et par ricochet tout ce qui traîne par terre, comme les mille pattes et autres, parce que j'ai l'impression qu'ils vont venir me piquer. Et je vous raconte une anecdote. Il y a cela 10 jours, j'étais allé au champ avec un de mes oncles et on devait rentrer dans la brousse. Il y a énormément de brousse et j'étais tout effrayé, tout paniqué. Je ne faisais que sauter, regarder à gauche, à droite parce que j'étais persuadé qu'il allait être piqué, mordu par un serpent. Et donc, j'aimerais poser la question au docteur. Cette psychose-là, ça dépasse quand même 10 ans. Est-ce que ça va rester toute la vie? Ou bien, à un moment donné, je vais finir par m'y faire.
Professeur Jean-Philippe Chipot, cette véritable terreur qu'éprouve Aboubacar à la vision non pas seulement des serpents, mais aussi d'autres animaux, qu'est-ce qu'il peut faire pour y remédier?
Alors malheureusement, je ne suis pas un spécialiste du
peut-être
traitement des phobies.
Peut-être se tourner voir quelqu'un qui s'occupe des phobies, hein, un psychologue clinicien.
Absolument, un psychologue clinicien qui pourrait essayer de voir un petit peu comment se débarrasser de cette peur. Il faut savoir que c'est fréquent. Même des personnes qui n'ont jamais été mordues par un serpent, d'ailleurs, sont phobiques, hein, peuvent être phobiques. Et donc, par conséquent, c'est vraiment un phénomène qui est fréquent et dont on peut guérir si on est pris en charge. Alors, je voudrais quand même rassurer d'abord Aboubacar, mais aussi les autres auditeurs, sur le fait, rappeler que la grande majorité des morsures de serpents n'est pas suivie d'envenimation. Alors, juste un chiffre peut-être. Il y a environ 1 million de morsures de serpents en Afrique subsaharienne chaque année, sur lesquelles la moitié, c'est-à-dire 500 000, sont suivies d'une envenimation, dont 300 000 nécessite des soins dans un centre de santé ou dans un hôpital, et sur lesquels il y aurait environ 25 000 décès. Donc vous voyez, on part d'un million de morsures pour 25 000 décès. Alors 25 000 décès, c'est beaucoup trop, nous sommes bien d'accord. Mais par rapport aux millions de morsures annuelles
d'exposition,
en Afrique subsaharienne, il y a quand même une marge, et donc il faut que vous vous disiez bien que la morsure ne veut pas dire, même pas c'est pas forcément suivi d'une envenimation, et en tout cas, certainement pas d'un décès.
Et en tout cas, vous, Aboubacar, vous avez bien été pris en charge, puisqu'on vous
tout
a traité
fait.
Après cette piqûre. Très bonne journée à vous à Abidjan. On part pour le Cameroun, Bandjok, où l'on rejoint Hadji. Bonjour Hadji.
Bonjour madame.
On vous écoute Hadji.
Oui, moi, ça fait beaucoup d'années également. Je pense en 1992. J'étais encore un petit garçon. Je rentrais des champs sans chaussures à la tombée de la nuit. C'est ainsi que je mets mon pied sur un serpent. À l'époque, on nous parlait de la vipère. Et c'est comme ça que je me suis fait mordre au niveau des orteils. Et là, tout de suite, comme on n'était pas loin de la maison, on a plutôt couru à la maison, dire alerter les parents. Et tout de suite, on fait le garrot. Et là, on n'est pas allé à l'hôpital. Plutôt, on est allé vers un guérisseur traditionnel du village qui, une fois arrivé, il a incisé, il a agrandi la blessure et le sang a sorti. J'ai constaté moi-même le sang noir qui sortait. Et là, il a appliqué son produit, genre les écorces, bien écrasées là. Après, on est rentré. En même temps, il nous a remis un autre produit qu'il fallait aspirer. Et il fallait aspirer le matin, je pense, et le soir. Et c'est ainsi que les parents me demandaient chaque fois, le matin ou le soir, est-ce que tu as éternué en journée? Je répondais non. Et c'était comme ça pendant, je pense, 3 jours. Après ce jour-là, j'ai quand même éternué. Quand j'ai dit cela aux parents, que j'ai éternué, ils étaient très contents. Ils me disaient que non, tu es déjà guéri.
Et Hadji, aujourd'hui, vous avez eu des séquelles ensuite ou tout est rentré dans l'ordre?
Non, il n'y a pas de séquelles, tout est dans l'ordre. Tout est dans l'ordre, je n'ai pas les difficultés quelque part. C'est vrai, la cicatrice est encore là. La cicatrice, je peux dire, c'est l'incision qui a grandi. J'ai grandi avec cela aussi, cela présent sur mon pied. Donc, il n'y a pas de difficulté autre.
Il n'y a pas de séquelles. Merci beaucoup, Hadji, pour ce témoignage. Ce qu'on entend, professeur Jean-Philippe Chipot, c'est d'abord le recours. D'ailleurs, d'autres auditeurs nous en ont témoigné. Le recours fréquent à la médecine traditionnelle et à certains gestes, vous qui, en tant que spécialiste, que médecin, de médecin, vous ne conseilleriez pas forcément comme l'incision ou le dépôt de certains produits. Quel geste faire? Quel geste plutôt éviter?
Alors, effectivement, la totalité des personnes qui sont mordues par un serpent ont d'abord recours à un tradipraticien et la majorité d'entre elles ne voient que le tradipraticien. Donc, ces tradipraticiens ont différentes approches pour traiter les morsures de serpent. Certaines sont tout à fait positives et en particulier l'utilisation, on a bien montré maintenant expérimentalement, que certaines plantes avaient un effet thérapeutique certain sur les morsures de serpent, sur les envenimations, soit parce que c'est un traitement symptomatique, c'est-à-dire ça calme la douleur, ça ralentit les saignements, etc., soit directement en agissant sur le venin. Ça, on l'a bien montré. En même temps, des fois, ils ont quelques gestes que nous ne recommanderions pas, comme par exemple les incisions, parce que les incisions, d'une part, constituent un risque de surinfection. D'autre part, notamment dans les morsures de vipères, il y a des hémorragies et donc si vous incisez, vous augmentez encore le risque d'hémorragie. Et puis, c'est, pensons-nous, une perte de temps. Ce que je voudrais juste dire, c'est que je crois que nous avons énormément à échanger avec les tradipraticiens. Ils ont un savoir, nous avons aussi un savoir. Et de toute façon, les tradipraticiens sont absolument incontournables puisque tout le monde va d'abord chez le tradipraticien. Il faut donc que nous nous entendions avec eux pour avoir un protocole thérapeutique qui soit efficace.
Compatible
et efficace. D'abord, ils font leur traitement et il est nécessaire en évitant certains gestes. Et ensuite, ils nous réfèrent, c'est-à-dire qu'ils envoient le patient à l'hôpital où nous poursuivons avec d'autres traitements. La prise en charge qui a été effectuée par le tradipraticien.
On y reviendra tout à l'heure, professeur Jean-Philippe Chipot, bien sûr, à condition d'avoir dans l'hôpital ou dans le centre de soins les produits adéquats pour la prise en charge. Et ça, c'est une vraie problématique. On va en tout cas partir pour tout de suite pour le Gabon.
Priorité santé sur RFI.
Le Gabon, on vous retrouve. Professeur Romain Tchoua, bonjour.
Oui, bonjour Caroline.
Bonjour.
Vous êtes le chef du département anesthésie, réanimation, urgence de l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ndimba à Libreville. Professeur Tchoua, quelles sont les espèces venimeuses les plus dangereuses et que l'on a aussi l'occasion de rencontrer le plus souvent au Gabon?
Bien, écoutez, par rapport donc aux espèces les plus venimeuses au Gabon, nous rencontrons beaucoup plus les serpents et à une moindre mesure les scorpions. Mais malheureusement, les scorpions, on n'en voit pas beaucoup. Le chakra existe. Et au niveau hospitalier, on n'a pas beaucoup de patients qui viennent pour des morsures donc de scorpions. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, elles n'existent pas. Une série récente que nous avons faite à l'hôpital militaire a montré que sur une trentaine d'envenimations, il y avait juste une seule piqûre de scorpion. Voilà, donc nous restons uniquement sur les espèces venimeuses, donc à partir des morsures de serpent.
Et est-ce qu'il y a justement une façon, une liste qui recenserait ces piqûres, ces morsures de façon systématique au Gabon, professeur Tchoua?
Mais voilà, je pense que jusqu'à présent, on ne s'est intéressé qu'effectivement à la prise en charge des victimes de ces morsures. Et 30 ans après nos premiers travaux, on se rend compte effectivement que beaucoup d'informations nous échappent. Et je pense que nous allons repartir par la base, essayer donc de recenser effectivement toute morsure donc des différents différents animaux, pour essayer de voir également quelle est la place réelle de ces morsures de serpent ou par scorpion. Nous n'avons pas cette base de données effectivement qui nous donnerait ces informations
précise.
En tout cas, en consultation, professeur Romain Tchoua, vous pouvez constater qui sont les victimes de ces piqûres, de ces morsures, justement. Quelle population est particulièrement en danger?
Alors, les populations particulièrement en danger, c'est essentiellement les adultes et les enfants. Mais les adultes qui particulièrement se donnent aux travaux champêtres. Donc, vous savez que nous avons une tradition où, effectivement, les citadins ont l'habitude d'aller faire des travaux champêtres au milieu rural. Et peut-être ne connaissant pas trop bien le comportement des serpents, donc se font facilement mordre. Et les enfants en milieu périurbain, puisque de plus en plus il y a des nouvelles cités, de nouveaux lieux d'habitation autour des villes, mais où on trouve quand même une juxtaposition, une coexistence entre les zones de forêt non encore explorées et l'émergence de nouvelles cités urbaines. Donc là, de plus en plus, on a des cas d'enfants qui sont mordus dans ces conditions-là.
On parlait tout à l'heure avec le professeur Jean-Philippe Chipot et avec nos auditeurs du recours à la médecine traditionnelle. J'imagine, professeur Romain Tchoua, que c'est quelque chose aussi que vous constatez au Gabon. Finalement, les gens qui viennent vous consulter, souvent, ils sont déjà passés par une autre étape chez le guérisseur ou le tradipraticien.
Absolument. Je pense qu'il y a une polarité particulière par rapport à l'attraction vers la médecine traditionnelle, et je pense qu'au niveau des facultés, des écoles de médecine infirmière, on n'a pas déjà nous-mêmes suffisamment enseigné, sensibilisé sur cette question. Donc la plupart des personnes ont pour seule référence médicale la tradimédecine, qui était pendant longtemps effectivement le seul type de médecine pratiquée. Et donc ils ont gardé ça. Et naturellement, ils ont beaucoup plus confiance et se réfèrent d'emblée, en première intention, chez les tradipraticiens. Donc c'est un travail qu'on est en train de vouloir proposer également, de pouvoir donc allier effectivement ces principes de la médecine traditionnelle, hein, je pense que qui ont leur intérêt, puisque beaucoup de personnes témoignent par rapport à ça, mais sensibiliser et alerter effectivement sur la gravité, sur les complications qui peuvent survenir lorsque certaines précautions ne sont pas prises. Donc il y a tout un travail de collaboration à faire avec la médecine traditionnelle.
Oui, puisqu'on le disait, hein, quand les piqûres sont dangereuses, les antivenins existent. Justement, est-ce que chez vous, ces sérums sont accessibles et quel est le prix d'un antivenin, professeur Romain Tchoua?
Alors c'est la question centrale de ces envenimations. J'avoue qu'au Gabon, nous avons beaucoup de chance parce que pendant un moment, les premiers antivenins qu'on avait n'étaient pas disponibles et encore moins accessibles. Et aujourd'hui, grâce à la Caisse nationale d'assurance maladie, donc ces antivenins sont inscrits dans la liste officielle donc des médicaments. Et donc ces antivenins sont disponibles et accessibles puisqu'ils coûtent moitié prix pour l'adhérent et l'assuré de la CLAMGS. Donc si vous prenez un flacon de l'antivenin panafricain, il est autour de 50 000 francs CFA, 75 euros. Donc aujourd'hui, on peut l'avoir en pharmacie à moitié prix, c'est-à-dire 25 000 francs CFA, à peu près 38 euros.
Ça veut dire en pharmacie, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il est disponible à l'hôpital, dans le centre de soins, ou il faut aller le chercher à la pharmacie pour l'amener dans le centre de traitement?
Voilà. Quelques hôpitaux, comme l'hôpital de référence, qu'est le nôtre, puisque nous nous occupons de ces questions, on fait en sorte qu'effectivement, nous puissions avoir une dotation qui permette déjà d'assurer les premiers soins. Ensuite, un système d'approvisionnement pour remplacer donc les flacons utilisés. Mais le problème, c'est effectivement la disponibilité dans chaque structure de soins. Donc, toutes les structures de soins n'ont pas ces produits avec eux. Donc, une ordonnance est faite au patient qui, effectivement, va vers la pharmacie. Mais je crois que le travail ici à faire, c'est de faire en sorte que dans toutes ces structures de santé, on puisse avoir au moins des kits, hein, des traitements, hein, des premiers soins, comprenant effectivement ces deux flacons d'antivenin avec un système donc, d'approvisionnement en fonction de la gestion des stocks. Donc c'est tout un travail à faire, parce que notre centrale d'achat, effectivement, qui doit s'occuper de cette distribution jusqu'à l'intérieur du pays, n'a pas encore pris effectivement le relais de ce que l'assurance maladie est en train de faire.
Merci.
Il y a tout un travail à faire.
Merci beaucoup, professeur Romain Chouin, chef du département anesthésie-réanimation à l'hôpital des armées Omar Bongondimba de Libreville. On l'a bien compris, c'est une chose d'avoir le vaccin dans la capitale, même si c'est pas forcément là qu'on en a le plus besoin, mais c'est une autre de l'avoir en milieu rural, professeur Jean-Philippe Chipot, ce vrai problème d'accessibilité aux antivenins.
Absolument, et c'est particulier à l'Afrique, hein, puisque l'Asie et l'Amérique du Sud, l'Amérique a à peu près résolu le problème en multipliant les fabricants d'antivenins. Hein. Chaque pays, pratiquement en Asie et en Amérique, a son fabricant qui est plus ou moins soutenu par l'État, soit parce que l'État achète la production, soit parce que c'est une entreprise dépendant directement de l'État. En Afrique, on n'a pas du tout cette possibilité-là. Et donc, on est obligé d'acheter les antivenins à l'extérieur. Premier point. Deuxième point, on ne sait pas les distribuer à l'intérieur du pays, là où on en a besoin. Alors, d'une part, parce qu'on ne sait pas exactement où on en a besoin et de combien on a besoin d'ampoules, et d'autre part, parce qu'il n'y a pas ce circuit de distribution, il n'est pas mis en place,
Ces produits se conservent longtemps ?
Ces produits se conservent, alors... Officiellement, pour des raisons légales, je dirais commerciales, il se conserve 3 ans, 3 à 5 ans, selon les pays, les pharmacopées, etc. Mais en réalité, on sait qu'il se conserve beaucoup plus longtemps. Hein. On pourrait multiplier par 2, voire par 3 la durée d'activité.
Tout à l'heure, en introduction de cette émission, on citait les propos de Kofi Annan, cet appel pour dire, en quelque sorte, ça suffit, il faut vraiment qu'on s'intéresse à cette envenimation. Pourquoi, aujourd'hui, cette question de santé est négligée?
Alors, elle est négligée parce que pour beaucoup de gens, aussi bien pour les patients que pour le personnel de santé et les autorités sanitaires, les autorités politiques, les morsures de serpent sont une fatalité. Comme il y a
une dimension mystique aussi. Hein.
Alors, il y a une dimension mystique, notamment au niveau de la prise en charge. C'est d'ailleurs pour ça que les tradis praticiens sont beaucoup plus sollicités. Mais souvenez-vous, il y a 30-50 ans, les accidents de la route étaient logés à la même enseigne. C'est-à-dire que c'est une fatalité. Voilà, on a eu un accident. On a mis très longtemps pour se rendre compte qu'il fallait analyser les causes de l'accident pour pouvoir, je parle des accidents de la route, pour pouvoir lutter contre eux. Et je crois que maintenant, on a les outils pour ça. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive forcément, mais ça, c'est un autre débat. Il faut faire la même chose avec les morsures de serpent et avec les piqûres de scorpion. Il faut analyser les causes, pourquoi nous faisons mordre, pourquoi nous nous faisons piquer.
Déjà, recenser les cas,
savoir où ils se trouvent, pourquoi, quelles sont les circonstances, etc. Ce que nous faisons avec une petite équipe depuis maintenant une trentaine d'années. Et puis ensuite, effectivement, nous pourrons proposer des moyens pour lutter contre cela.
Merci beaucoup, hein. Merci pour toutes ces explications, professeur Jean-Philippe Chipot. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut de recherche pour le développement ainsi qu'à l'Institut Pasteur.
Priorité santé sur RFI.
Alors cette annonce qui a été faite il y a tout juste une semaine par le préfet de l'île de la Réunion, déclenchement du niveau 4 du dispositif contre la dengue dans le département français de l'océan Indien. En ligne avec nous, docteur François Chiez, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes directeur de la veille et sécurité sanitaire auprès de l'agence régionale de santé pour l'océan Indien. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan sanitaire, ce passage à ce palier de niveau 4?
Alors, ça signifie théoriquement que nous sommes, et c'est la réalité, sur une épidémie de moyenne intensité. Mais je pense que ce qui est plus important dans cette notion-là, c'est aussi la possibilité de nous remobiliser l'ensemble des acteurs qui luttent contre la propagation des moustiques et donc de la dengue.
Ça concerne qui concrètement ?
Alors ça concerne d'une part le fait de mobiliser à la fois la lutte antivectorielle qui est déjà celle de l'ARS, à la fois mobiliser les militaires, à la fois remobiliser les pompiers, remobiliser des acteurs pour intervenir pendant une période où paradoxalement l'épidémie est toujours présente mais le nombre de cas diminue. Mais si l'on n'intervient pas à cette période précise, on va se retrouver pendant l'été austral sur une explosion épidémique. Et donc, on a besoin de mettre l'ensemble des moyens pendant cette période, et c'est la raison de ce passage en niveau 4 pour mobiliser des acteurs supplémentaires.
Alors, on va, si vous le voulez bien, pour informer les auditeurs de Priorité Santé, revenir sur ces grands symptômes de la dengue, le mode de transmission également, docteur François Chiez.
Alors, le mode de transmission, la transmission se fait par les moustiques. Hein, dans le cas de La Réunion, c'est Albopictus, ou plus connu sous le terme de moustique tigre. Et il peut être aussi transmis par d'autres formes de moustiques, mais c'est essentiellement Albopictus, en tout cas pour La Réunion.
Alors, oui. Et au niveau des symptômes?
Alors les symptômes, ce sont des fortes fièvres avec des douleurs particulières, avec des douleurs rétro-orbitales, la possibilité d'avoir des éruptions cutanées assez fortes et des formes qui peuvent être graves, puisque 2,5% à 4% des personnes qui sont touchées par cette affection, lorsque les formes sont sévères, peuvent en décéder.
Est-ce que vous avez des chiffres de l'épidémiologie actuelle à l'île de la Réunion? Combien de cas actuellement?
Oui, nous avons actuellement, à ce jour, 6152 cas, donc de personnes pour lesquelles l'épidémie, la dengue, la maladie elle-même, a été confirmée. Alors, parmi ces 6152 cas, ce sont des formes confirmées, mais vous savez qu'il y a des personnes qui présentent des formes asymptomatiques, donc ce n'est pas la totalité des personnes qui sont touchées par la dengue qui peuvent être identifiées s'ils ne consultent pas, et s'ils n'ont pas de symptômes pour consulter, mais c'est une situation qui est suffisamment préoccupante pour que l'on mette effectivement des moyens relativement importants pour essayer d'empêcher ce passage d'une épidémie à ce jour à ce qu'on appellerait une endémie, c'est-à-dire la réplication chaque année de l'épidémie et de façon plus forte dans les années à venir.
Et précisément, docteur François Chaise, il nous reste moins d'une minute. Quels moyens, prévention, traitement, prise en charge ?
Très important la prévention, c'est-à-dire qu'il faut supprimer les gypsards verts et la nécessité effectivement de remobiliser l'ensemble de la population de la Réunion qui a été très secouée par l'ensemble des passages des événements météorologiques graves, hein, comme les cyclones, les tempêtes tropicales, et qui ont peut-être un petit peu oublié de supprimer tout ce qui était gypsards verts et...
Gypsards verts, c'est-à-dire les plans d'eau stagnants, tout ce qui est petites mares, étangs...
Plans d'eau stagnantes, tout ce qui est effectivement les encombrants, tout ce qui est derrière les feuilles, tout ce qui permet effectivement aux moustiques de se développer, et donc le vecteur de la maladie, sachant que nous sommes dans l'hiver austral, mais qu'il fait encore suffisamment chaud, et que malheureusement encore, pour qu'on ait effectivement une circulation importante ce moustique et donc de la dengue.
Merci beaucoup docteur François Chiez. Je rappelle que vous êtes directeur de la veille sécurité sanitaire auprès de l'ARS dans l'océan Indien. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Demain, nous allons parler des maladies infectieuses émergentes. Zika, Lassa, SRAS, virus, Ebola. Pour vos questions, toujours le même numéro, 33 1 84 22 75 75. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.